Et c'est reparti pour les midis. Restez avec nous. À 13h, je recevrai le metteur en scène Ahmed Madani. Mais tout de suite, place à Marie Sorbier et le Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour. Bonjour Marie et bonjour, bonjour à tous. Bonjour, ça y est, le micro s'allume. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'événement littéraire de cette fin d'année. Oui, oui, grâce à la maison d'édition Le Vent des Îles, nous pouvons, nous, lecteurs francophones, nous plonger enfin dans le chef-d'œuvre de l'écrivain australien Patrick White, écrit en 1955. Alors c'est près de 600 pages, d'une densité et d'une ampleur peu communes. L'Arbre de l'Homme, c'est le titre du livre, est une aventure de lecture d'un prix Nobel peu connu en France et c'est le dossier du Point Culture du jour. David Fauquembert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur et traducteur et vous venez de traduire en français le chef-d'œuvre de Patrick White, écrivain australien Nobel de littérature en 1973. Le livre s'appelle « L'arbre de l'homme ». Il a été écrit en 1955, mais jamais encore traduit en français. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques phrases Patrick White, quel type d'écrivain était-il ?
Alors Patrick White, c'est un peu le, quand on connaît un peu la littérature australienne et les écrivains australiens, c'est un peu le monstre tutélaire de la littérature australienne, qui est à la fois extrêmement admiré et très redouté. Et je pense un petit peu, il y a un petit peu aussi de ressentiment à son égard de la part des écrivains australiens des 50 dernières années, parce qu'en fait, il a tout mangé la littérature australienne. C'est un tellement grand écrivain que ses compatriotes ont eu du mal à se faire une place dans son ombre. Mais c'est surtout un écrivain d'une sensibilité extraordinaire, et c'est ce qu'on ressent vraiment à la lecture, je crois, de ce livre-là. Il y a une façon de faire sentir les détails, les émotions, les choses les plus infimes d'une vie simple, qui est vraiment extraordinaire.
Et alors, comment se place justement ce roman-là, L'Arbre de l'Homme, dans son œuvre ?
L'Arbre de l'Homme, c'est l'un de ses premiers livres. Mais je crois que c'est vraiment, à mon sens, le premier grand livre de Patrick White et surtout le premier livre vraiment whitien, si on peut utiliser cet adjectif, parce qu'il l'écrit au retour de la guerre. Il a fait la guerre au Moyen-Orient et en Grèce dans les années 40. Et il revient en Australie à la fin des années 40. Et en 1950, il achète une ferme aux abords de Sydney où il va élever des chiens. Où il va avoir aussi un verger. Et il se met à écrire ce livre. Et c'est un livre qui lui prendra 5 années de travail acharné. Le biographe de Patrick White raconte les journées passées devant une phrase, parfois 3-4 jours devant une phrase. Donc c'est vraiment son premier grand œuvre. Et c'est une œuvre qui a une place un peu particulière dans le travail de Patrick White, parce que c'est pas la plus connue, mais je crois que c'est peut-être la plus ambitieuse et surtout la plus aboutie, dans le sens où c'est vraiment l'histoire d'une vie entière, la vie d'un homme qui s'appelle Stan Parker, de la fin de son adolescence jusqu'à sa mort. Et il y a vraiment une ampleur dans le déroulement de cette histoire qui est tout à fait particulière.
Alors c'est le roman d'une vie, vous venez de le dire, mais c'est une vie faite de non-dits. Comment vous, en tant que traducteur, en fait, comment justement on traduit les silences ? Comment on les fait entendre quand on passe d'une langue à une autre ?
Oui, donc le défi justement sur un texte comme celui-là, c'est d'essayer de rendre les nuances et les connotations du texte dans une langue française qui s'efforce elle aussi de garder cette polysémie, de trouver des verbes, des adjectifs, des mots qui puissent avoir les mêmes connotations ou au moins en garder une partie. Et c'était toute la difficulté de ce texte-là. Parce que c'est un texte où les phrases ne sont jamais tout à fait comme on s'attend à les voir. Quelqu'un me disait récemment, qui a lu le texte et beaucoup apprécié le texte, me disait que c'était une aventure de lecture unique dans sa vie. Pourtant, c'est quelqu'un qui est une grande lectrice. Parce qu'elle ne savait pas, en rentrant dans les phrases, comment elle allait en sortir, comment elles allaient tourner ces phrases-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais ressenti comme lecteur, mais on peut imaginer la difficulté que ça représente quand on traduit le texte. Quand on s'engage à chaque fois dans les phrases sans savoir comment elles vont tourner, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais c'est une aventure pour moi littéraire extraordinaire.
Il y a peut-être une autre difficulté, David Fauquembert, c'est retraduire en français la matérialité du bush, le bush australien qui est quand même très présent. C'est une langue terrienne, celle de Patrick White, mais pas que, elle a aussi une dimension cosmique. On peut dire ça ?
Oui, oui, tout à fait. Il y a une dimension, les éléments en fait, donc les éléments ont une place très importante dans ce texte. D'abord, ça se passe sur une terre aride. Un jeune homme arrive à la vingtaine sur une terre que lui a léguée son père à sa mort, et qui est une terre absolument ingrate, et qu'il va peu à peu défricher, ensemencer, dont il va réussir à tirer sa vie, et il y restera d'ailleurs jusqu'à sa mort. Et les éléments, donc c'est cette terre ingrate, mais ce sont aussi les inondations, ce sont aussi les sécheresses, parce qu'on est au fin fond de l'Australie. C'est un continent que je connaissais bien, donc c'est aussi pour ça que je voulais traduire ce livre. Et moi, j'ai vécu notamment l'Australie, non seulement en y étant allé, mais à travers ce livre-là, parce que c'est une expérience physique, l'Arbre de l'Homme. Et donc, en fait, cet aspect cosmique dont vous parlez, il est très présent. C'est-à-dire que les éléments sont non seulement un personnage du texte, mais c'est un peu comme un cœur antique, comme dans les tragédies, c'est-à-dire que les hommes évoluent sans arrêt sous le jugement presque de la nature. Ils sont mis à l'épreuve par les inondations, ils sont mis à l'épreuve par les sécheresses, et de leur manière de réagir va venir la définition des personnages. Ils se définissent un petit peu dans leur rapport à l'environnement.
On compare parfois la phrase de Patrick White à celle de Faulkner. Est-ce que c'est une comparaison qui vous paraît juste ?
Alors c'est très différent Faulkner et Patrick White dans le style, mais il y a déjà des monologues intérieurs qui sont très importants chez les deux, c'est-à-dire qu'on rentre dans la tête des personnages d'une manière absolument stupéfiante. Il faut voir quand même que Patrick White écrit ce texte-là, il a même pas 40 ans, et avoir cette profondeur de psychologie, de comprendre les tréfonds de l'âme d'un personnage à cet âge-là, c'est très très fort, et on retrouve ça bien sûr chez Faulkner. Et puis il y a une ampleur des phrases, c'est-à-dire c'est des phrases qui sont, on peut s'y perdre, mais c'est un délice de se perdre dans des phrases comme ça, parce qu'elles vous emmènent dans des recoins que vous ne connaissiez pas. Donc je compare souvent Patrick White à Faulkner, mais c'est plus personnel, c'est-à-dire que ce sont les deux auteurs, quand j'ai découvert leur travail, qui m'ont fait le plus grand choc de lecteur. C'est-à-dire que dans ma vingtaine, quand j'ai commencé à lire ces auteurs-là, ce sont les deux auteurs, j'ai commencé par Absalon, Faulkner, donc vous voyez, c'est un des textes les plus ambitieux de Faulkner, etc. On est complètement perdu au début, mais j'ai ressenti le même choc exactement en lisant L'Arbre de l'Homme de Patrick White. Pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de ces grands textes où on a l'impression que personne n'a jamais écrit comme ça.
Alors depuis la sortie du livre en novembre, et ce sera ma dernière question, tous les critiques en France s'accordent à dire que c'est effectivement un grand livre, un chef-d'œuvre. Pourquoi a-t-on attendu 70 ans pour le traduire en français ? Est-ce que vous avez une réponse à cette question ?
Non, je pense que peut-être c'était le moment pour qu'il soit traduit. Je ne sais pas du tout. C'est vrai que c'est un grand mystère, puisque tout avait déjà été traduit, sauf celui-là, qui pour moi est de loin le plus ambitieux et le plus brillant de ces livres. Mais écoutez, c'est bien. Peut-être que le public maintenant est prêt à le lire.
Merci beaucoup en tout cas David Faulkenberg. Je rappelle donc que L'Arbre de l'Homme, le grand livre de Patrick White, vient de paraître en français aux éditions Au Vent des Îles, et donc que vous assurez la traduction. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, l'Académie BAC tire la sonnette d'alarme face aux restrictions budgétaires qui touchent le secteur culturel.
Oui, créée en 1997 par le musicien Jean-Paul Combet, l'Académie BAC est une association implantée à Dieppe qui fait vivre la musique baroque sur le territoire normand depuis près de 30 ans à travers des centaines de concerts et de nombreuses actions pédagogiques destinées aux enfants. Pourtant, en 2025, les subventions octroyées par la région Normandie et le ministère de la Culture ont baissé d'un quart. Le directeur de l'Académie alerte sur le risque que font peser ces coupes sur l'écosystème fragile de la musique classique. Il rappelle par ailleurs que la formation des musiciens en France est l'une des meilleures au monde, mais que ces coupes à répétition menacent cette excellence sur le long terme.
Direction le Val-de-Marne à présent, où le premier musée dédié aux jeux vidéo vient d'ouvrir ses portes.
Et c'est à Arcueil que l'association M05 a pu s'installer de manière pérenne pour présenter une partie de sa collection, la plus grande d'Europe, composée de 70 000 objets. Dans ce nouvel espace de 1 200 m², les visiteurs peuvent ainsi découvrir 140 bornes de jeux sur lesquelles il est possible de jouer. Outre l'aspect ludique, ce musée retrace aussi l'histoire du jeu vidéo et permet de revenir sur les acteurs importants de cette industrie culturelle. Un musée inédit en France, mais pas à l'étranger, puisque l'Allemagne dispose d'un musée dédié aux consoles depuis 1997 et le Royaume-Uni depuis 2015.
Et pour finir, Marie, la France semble être devenue une terre d'accueil pour les stars américaines de cinéma.
Oui, on a appris ce lundi que l'acteur américain George Clooney, ainsi que sa femme et leurs deux enfants, avaient acquis par décret la nationalité française. La star hollywoodienne vit avec sa famille une partie de l'année à Brignoles, une petite commune du Var, depuis 2021. Et dans le même temps, le cinéaste Jim Jarmusch, dernier Lion d'Or à la Mostra de Venise, a indiqué vouloir demander lui aussi la nationalité française pour avoir un endroit où s'évader des États-Unis. À noter d'ailleurs que Jim Jarmusch sera votre invité, Marie, ce vendredi. À 13h.
Exactement. Merci Marie. À l'année prochaine pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.